BDO.
J'ai dit à mes équipes, on va montrer aux Français qu'on est là, on va innover en homéopathie et on va innover hors homéopathie. 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. J'étais la première personne à ne pas être de la famille Boiron et à diriger cette entreprise. Moi, clairement, je sais pourquoi je me lève le matin et c'est ce que je communique à mes salariés.
Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique du monde de la santé et du bien-être, Valérie Laurence Poinzeau, directrice générale des laboratoires Boiron, le numéro 1 mondial des médicaments homéopathiques. Dirigeante visionnaire, Valérie a su mener l'entreprise à travers des périodes de transformation majeures, tout en défendant avec passion les principes et l'efficacité de l'homéopathie face à des défis sans précédent. Son parcours, marqué par un engagement sans faille pour l'innovation dans le monde de la santé naturelle, a été jalonné par des combats notables, notamment contre le déremboursement des médicaments homéopathiques en France. Mais loin de se laisser décourager, Valérie a utilisé ces défis comme des tremplins pour renforcer la mission et la vision de Laboratoire Boiron, affirmant plus que jamais l'importance de l'homéopathie dans l'arsenal thérapeutique mondial. Auteure inspirante, Valérie a partagé sa vision et ses convictions à travers plusieurs ouvrages, dont Wonder Woman, Dites oui à vos pouvoirs, un appel à l'action pour les femmes désirant s'épanouir professionnellement tout en restant fidèles à leurs valeurs. Par ses écrits, elle incite à l'audace, à l'innovation, à la persévérance, des qualités qu'elle incarne pleinement dans son rôle à la tête de Boiron. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Dans ce podcast, on cherche à décrypter le parcours des dirigeants. Donc, on va parler de toi, ce qui t'a amené dans cette entreprise, ta vision pour l'entreprise. Et puis, je voudrais qu'on partage aussi ta vision sur les grands sujets de société, quelle est ta lecture de l'environnement des entreprises aujourd'hui. Puis, si tu peux nous partager une leçon de CEO, c'est ce qu'on essaie de chercher dans ce podcast, que les gens qui nous écoutent aient un moment d'inspiration et puissent en tirer une leçon. Voilà le programme pour aujourd'hui, si t'es d'accord. Mais pour commencer, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler de tes origines, d'où tu viens, t'es née où, Valérie?
Moi, je suis née en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, et j'ai fait mes études à Dijon. Et puis, très très vite, je me suis passionnée pour la publicité. Et donc, j'ai fait des études à l'IAE, de marketing et de finance. Mes parents y tenaient, parce que c'est vrai que moi, je voulais tout de suite m'envoler dans une grande agence de publicité le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit, un peu temporiser.
D'où elle venait, cette passion?
En fait, depuis toute petite, je collectionnais les publicités de parfums. Et j'étais passionnée par la créativité, l'esthétisme de ces publicités, et puis par la communication. Les slogans publicitaires, j'adore écrire aussi. En fait, quand je pensais à la publicité, j'avais des étoiles dans les yeux et j'avais envie de côtoyer des publicitaires et de participer à l'élaboration de publicités.
Je vois déjà un certain fil rouge dans ton parcours. Alors, tu rentres donc dans une grande agence?
Eh bien oui, quand j'ai terminé mes études, à peine j'avais mon diplôme, je me souviens encore, c'était en juin 91, j'ai tout de suite enchaîné avec un stage chez Publicis et puis cherché du travail. Et j'avais deux possibilités, entrer chez Saatchi ou chez Publicis. Et puis finalement, j'ai choisi Publicis.
Qu'est-ce que tu retires de cette expérience?
Alors, je suis restée 2 ans, parce qu'après 2 ans seulement, j'ai été embauchée par un de mes clients, qui était le laboratoire Fournier. J'ai adoré cette période parce que je trouve que dans les agences, ça fourmille. On travaille beaucoup, mais en même temps, je trouve ça riche. Et ça m'a appris beaucoup sur le travail d'équipe, sur le hors-travail, parce qu'on était une équipe, on faisait beaucoup de choses le soir, beaucoup de sport ensemble. J'aime bien cette ambiance de lien avec les personnes avec lesquelles je travaille.
Donc, tu fais partie de tous ceux, ça m'évoque une situation que je connais, des gens qui partent chez leurs clients, quoi, finalement. Tu te fais débaucher par un client.
Je suis partie chez l'annonceur, comme on dit.
Tu peux nous expliquer donc le parcours entre ce moment où tu vas dans l'entreprise et Laboratoire Boiron?
Alors, après Publicis, donc, j'ai été embauchée par le laboratoire Fournier. Et c'était intéressant parce que ils m'ont tout de suite dit, ben, entre guillemets, ma petite, avant d'avoir un beau poste en marketing chez nous, il faut absolument que tu fasses du terrain, c'est obligatoire. Donc, au début, je me suis dit, oh là là, faire du terrain, être visiteuse médicale, ça me plaisait pas trop. Et puis, j'ai dit oui. Et en fait, c'était une chance de pouvoir faire ces presque deux années de terrain en tant que visiteuse médicale. Je m'en sers encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, au bout de 2 ans, j'ai rejoint les équipes marketing, communication de Fournier. Je me suis occupée d'un médicament pour l'estomac, un anti-H2. Et ensuite, j'ai rejoint le laboratoire Urgo, tout naturellement, puisque ça faisait partie du même groupe. Et ça m'a amené à faire de la publicité grand public, qui était mes premières amours. Et puis ensuite, pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai rejoint mon mari à Lyon. J'ai postulé chez Boiron. Et puis, c'est s'avéré qu'il cherchait quelqu'un, juste à ce moment-là, qui avait mon profil, qui connaissait la communication médicale, la communication grand public, et qui avait fait du terrain avec la visite médicale. Donc, j'étais vraiment, comme ils m'ont dit, le mouton à cinq pattes qui te cherchait. Et c'est tout naturellement que je suis entrée dans cette entreprise avec aussi une expérience personnelle avec l'homéopathie quand j'étais petite. Et puis avec mes enfants, à l'époque, j'avais 2 enfants. J'en ai 3 aujourd'hui. Et mes enfants, comme beaucoup, étaient malades. Toutes les semaines, je devais voir le médecin. Donc le médecin m'avait dit, ça serait bien que tu ailles consulter un homéopathe parce qu'on peut pas leur donner tout le temps des antibiotiques. Hein. C'est pas automatique, comme on le sait. Et donc, j'étais heureuse à l'époque de pouvoir rejoindre ce laboratoire.
Est-ce que tu peux du coup nous dire qu'est-ce que fait la société aujourd'hui et ce qu'elle est ?
Alors c'est un laboratoire où nous sommes plus de 2500, hein, 2500 personnes, qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans 50 pays. Et comme tu l'as dit, c'est le leader mondial des médicaments homéopathiques. Le laboratoire est très connu à l'international pour sa qualité pharmaceutique, bien sûr très connu en France aussi. Mais c'est vrai que c'est une référence, Boiron, en termes de qualité, de réglementation aussi. On a contribué à beaucoup de réglementations. On a un laboratoire qui a des machines unique à Lyon. On fabrique tout en France. C'est une grande fierté pour moi de diriger ce laboratoire parce que c'est des médicaments qui sont très utiles à la santé publique, en particulier pour les enfants, pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui sont atteintes de maladies graves comme le cancer et qui doivent supporter des traitements lourds. Et l'homéopathie s'inscrit pleinement dans les soins de support en oncologie.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre le moment où tu rentres donc en marketing chez Boiron, aujourd'hui tu en es la dirigeante, je crois que tu es la première à ne pas être de la famille. Comment ça s'est passé et, cette évolution, elle peut, comme ça, quand on la lit sur un CV, on peut se dire, tiens, c'est quand même à la fois rapide et à la fois étonnant dans un groupe familial qu'on ait une dirigeante qui ne soit pas de la famille. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi et comment s'est passée ton évolution ?
Alors, en fait, mon arrivée chez Boiron a été assez... j'allais dire, finalement, avec le recul, assez unique, parce que quand je suis entrée dans l'entreprise, moi qui suis très attachée au pourquoi et au sens, les premières semaines, les premiers mois, j'ai été un peu interpellée par le projet de l'entreprise écrit par monsieur Christian Boiron, qui était que chaque médecin dans le monde puisse inscrire l'homéopathie dans sa pratique quotidienne et la réalité de l'entreprise. Ou dans la réalité du quotidien de l'entreprise, on s'intéressait plutôt au mot pharmacien et non pas au médecin. Et au bout de 3 mois exactement, à la fin de ma période d'essai, je me suis dit, mais moi, je veux aller voir le dirigeant parce que je ne sais pas si je vais rester. Et souvent, on parle de malentendu. On me dit, bah, sur un malentendu, je suis restée. Moi, c'est sur un bien entendu que je suis restée, puisqu'en fait, je suis allée voir Christian Boiron. Je voulais voir qui était le dirigeant. Pour moi, c'était important, le dirigeant de l'entreprise. Ça l'est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Le dirigeant des entreprises, pour moi, c'est la clé. C'est eux qui donnent le « là » sur l'entreprise. Et donc, je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je viens vous voir pour savoir si je vais rester dans l'entreprise parce que je m'interroge et je vous interpelle parce que je trouve que votre entreprise, elle est montée à l'envers. Donc je l'ai dit comme ça. C'est assez culotté. Mais en fait, moi, je me suis dit, bon, il faut que je reste pour amener quelque chose. Si je n'amène rien et je ne suis pas alignée avec ce que souhaite l'entreprise, autant ne pas rester. Monsieur Boiron m'a convaincue de rester en me disant, mais finalement, Valérie, cette rencontre, c'est la rencontre entre 2 connaissances et 2 ignorances. 2 connaissances parce que vous connaissez le monde de l'entreprise pharmaceutique. Moi, je ne la connais pas. Par contre, je connais bien mon entreprise, je connais bien l'homéopathie, ce que vous ne connaissez pas. Et voilà, donc il y avait ces deux connaissances et ces deux ignorances. Et il m'a dit, moi, j'aimerais que vous restiez pour que vous continuiez à nous accompagner. Et puis, il s'est avéré que quelques mois plus tard, il est venu au séminaire. Donc, il s'est vraiment intéressé à différents sujets médicaux de l'entreprise. Et puis, il y a eu des départs dans l'entreprise qui étaient inattendus. Le directeur général adjoint, qui était le bras droit de Christian Boiron, est décédé de manière brutale un dimanche. D'autres personnes sont parties, une personne à la retraite, une personne a rejoint sa conjointe dans l'ouest de la France. Ce qui fait que M. Boiron s'est retrouvé avec trois départs, à la fois attendus ou inattendus. Et il s'est dit, sur qui je peux m'appuyer pour le développement pharmaceutique, pour le développement médical? Et bien, moi, j'étais là. Et donc, j'ai fait partie, on va dire, des personnes et des personnalités qui l'ont aidé à ce moment-là à développer l'entreprise. Et donc, il m'a demandé très vite de m'occuper du développement médical de l'entreprise. Et il a bien vu que ce que je lui avais dit dans le premier entretien, ça s'avérait juste et qu'il pouvait compter sur moi et ma motivation et ma connaissance du médical pour développer l'entreprise. Et puis petit à petit, bien on a appris à se connaître, j'ai appris à connaître l'entreprise et puis il a fait venir son frère Thierry Boiron à la direction générale de l'entreprise et à ce moment-là, il a dit ça serait bien que tu rejoignes la direction générale en tant que femme, déjà il y avait pas de femme à la direction générale et puis avec ton caractère que tu puisses accompagner mon frère Thierry pendant son mandat. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, Christian Boiron a pris du recul, il est parti en Italie. Thierry Boiron est arrivé, il venait des États-Unis. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé aux côtés de Thierry Boiron. Donc là, j'étais directrice générale adjointe. Et au bout de 7 ans, ils ont décidé d'inverser leur rôle. Thierry Boiron est revenu président. Monsieur Christian Boiron est devenu à nouveau directeur général. Et là, il m'a demandé d'être directrice générale déléguée. Et finalement, d'embrasser un poste beaucoup plus large avec l'international. C'est là où j'ai repris aussi la finance. Et donc, je l'ai accompagnée depuis 2011 en tant que directrice générale déléguée. Donc avec un mandat social. Et voilà, en tant que bras droit et numéro 2 de Christian Boiron. Et puis c'est comme ça qu'en 2018, il m'a appelé pendant mes vacances, je me souviens au mois d'août 2018, en me disant « Valérie, maintenant tu es prête, moi je suis prêt aussi à prendre ma retraite. » Il avait à l'époque 73 ans et donc il faut que tu prennes la suite. Et c'est comme ça qu'en janvier 2019, j'ai pris la suite de Christian. Et comme tu l'as dit, donc j'étais la première personne à ne pas être de la famille de Boiron et à diriger cette entreprise.
T'étais ambitieuse, tu te qualifies d'ambitieuse?
Pas du tout. On m'a souvent parlé de cette histoire de l'ambition et je pense qu'il en faut. Mais moi, ma vision de l'ambition, c'est de l'ambition au service d'un projet. Moi, ce qui m'anime, c'est le projet. Je suis une femme passionnée. Je te l'ai dit, je me suis passionnée pour la publicité. Après, je me suis beaucoup passionnée pour le vin, l'œnologie. Mon ex-mari est vinificateur et avait une maison de vin. J'ai été passionnée par ça et je me suis passionnée pour l'homéopathie. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les patients et d'aider les autres. Pour moi, l'ambition, elle doit être au service d'un projet. Puis moi, mon projet, c'est un projet de santé publique. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait des papas, des mamans, des enfants, des hommes et des femmes qui arrêtent de souffrir et qui, parfois, ne connaissent pas nos médicaments. S'ils les connaissaient, eh bien, ils auraient la vie plus facile.
Sur ce sujet de l'homéopathie, j'allais dire le combat de l'entreprise, je l'ai évoqué dans l'introduction, une entreprise qui est quand même passée par une phase de tourmente il y a finalement pas longtemps, qui est repartie, qui s'est redressée, qui s'est diversifiée. Mais tu dis ta passion, ton combat pour l'homéopathie, en quoi c'est un enjeu en fait?
Pour moi, c'est un enjeu fort, l'homéopathie en France et à travers le monde, parce que plus que jamais, les patients du monde entier veulent se soigner avec efficacité et aussi avec sécurité. Et l'homéopathie, quand elle est bien utilisée, cette thérapeutique, elle allie les deux, l'efficacité et la sécurité. Et on a besoin de tout pour se soigner. Je te prenais tout à l'heure l'exemple des soins de support. Toi et moi, on peut être demain ou nos enfants, nous, nos parents atteints d'une maladie grave. On va devoir subir une chirurgie, peut-être prendre de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des traitements lourds. Il faudra le faire, il faudra le prendre. Mais en plus, ce qui est intéressant avec l'homéopathie, c'est que ça va être un soin qui va être complémentaire. Et donc, si tu vis bien ta chirurgie, tu vis bien ta chimiothérapie parce que tu n'as pas d'effet secondaire, ta radiothérapie parce que tu n'as pas de brûlure, tu vas mieux te remettre de ce choc de vie, de choc de santé que tu vas avoir. Il faut être un allié de la santé et il faut pouvoir bénéficier de tous les traitements. C'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas opposer la chirurgie, l'allopathie avec l'homéopathie. Il faut dire que ensemble, ensemble, on peut permettre aux gens d'améliorer leur santé. Et puis, dans certains types de traitements, il n'y a rien. Par exemple, pour les femmes enceintes, elles peuvent rien prendre. Ben, c'est dommage, elles ont des troubles du sommeil, des troubles des fois du transit, elles peuvent avoir un rhume, eh bien, elles peuvent pas prendre certains traitements. L'homéopathie, elles peuvent. Et donc, si on peut soulager des maux de la grossesse ou des maux pendant la grossesse, eh ben, tant mieux. Et c'est là où je trouve que c'est important de porter haute les couleurs de ce que peut amener l'homéopathie, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des professionnels de santé qui ne connaissent pas, et c'est dommage, on se prive d'un traitement qui peut aider dans beaucoup de cas.
C'est très convaincant. Très convaincant.
Merci.
Alors, on le disait, ces médicaments étaient remboursés par la Sécurité sociale. Une ministre prend la décision de dérembourser tous ces produits avec un impact sur la société qui a été très important. Tu peux nous décrire un peu la situation, d'avoir ta vision sur ce moment et se dire finalement, quand t'es sur une entreprise qui vend ces médicaments, on imagine baisse de chiffre d'affaires, tourmente, etc. Comment tu le vis quand ça arrive, ça?
Alors, déjà, dire que ça peut arriver à tout le monde, et c'est d'ailleurs pour ça, on en reparlera, que je me suis impliquée dans le club des ETI, on a vraiment souffert en tant qu'entreprise française, leader dans son domaine. Hein. C'est une fierté d'être un leader français. On a une entreprise unique. Pour moi, le gouvernement français devrait être fier d'avoir ce leader français, comme il a d'autres leaders qu'il faut qu'il chouchoute, on va dire. Donc, nous, c'était tout l'inverse. On a été complètement fracassés, on va dire, par cette ministre de la Santé, faut le dire, qui a décidé de nous dérembourser. On s'est battu contre vents et marées parce que au-delà de nous et de notre entreprise, ce sont les patients qu'on a défendus. Hein, on était en plein, en plus, dans le moment où on parlait du pouvoir d'achat. Et même si l'homéopathie n'est pas chère, bah, y a des patients qui ne peuvent plus se payer des traitements chroniques pour traiter des maux qu'ils ont avec l'homéopathie. Les patients français ont été vraiment atterrés de cette décision unilatérale, sans écoute, de dérembourser l'homéopathie. C'est bien dommage pour les Français, c'est bien dommage pour la France. Quand la décision est prise, bon ben voilà, il faut accepter la décision, on peut pas revenir en arrière. Et on verra peut-être dans d'autres années avec d'autres gouvernements, peut-être c'est un retour en arrière là-dessus. Mais en tout cas, la décision étant prise, il fallait sauver l'entreprise. Parce que il faut savoir que notre entreprise était constituée d'un chiffre d'affaires à 60% français, avec 98% de médicaments homéopathiques. Donc, quand on a un déremboursement, on a des études hein, qui montrent qu'on a une baisse de chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 60%. Donc nous, c'était notre cas en France, hein. Ça a été une baisse de 20%, puis 40%. On faisait 617 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai dû prendre les choses en main de manière très rapide. On a dû faire un plan de sauvegarde de l'emploi de 512 personnes. On a fermé 13 sites. Et pour te dire, en plus, c'était dans la période Covid. J'ai annoncé le PS le 11 mars 2020 et le 17 mars, souviens-toi, on était confinés. Donc j'ai dû en plus faire un plan social pendant une période de confinement. Donc, ça a été très douloureux déjà pour les actionnaires familiaux, pour la famille Boiron, ça a été très dur. Ils n'avaient jamais licencié comme ça depuis 90 ans. Là, c'était obligatoire de faire ce genre de décision et donc, il a fallu le faire. Donc, j'ai accompagné du mieux possible les salariés qui partaient et beaucoup accompagné des salariés qui restaient. Parce que pour eux, c'était aussi difficile d'essuyer ce plan social parce que tout le monde était en colère. Personne comprenait pourquoi on nous avait fait ça pour un leader mondial. Donc ça, on l'a fait. Et puis, dans le même temps, il fallait sauver l'entreprise en innovant, ne pas se plaindre. Parce que il faut savoir rebondir dans des moments comme ceci. Et donc, c'est ce que j'ai organisé. Et je dis souvent, j'ai dû freiner et accélérer en même temps. Freiner les dépenses, fermer des sites, se séparer de collaborateurs qui étaient là des fois depuis 30 ans dans l'entreprise et en même temps dire à ceux qui restent, on y va, on va innover dans tous les domaines.
Et alors sur quel domaine justement? Parce qu'on se dit tu perds une part significative de ton chiffre d'affaires, c'était quoi l'issue en fait?
Alors quand je dis innover dans les domaines, ce qui est très important pour un leader, c'était d'innover déjà dans son domaine. Donc j'ai dit à mes équipes, on va montrer aux Français qu'on est là, on va innover en homéopathie et on va innover hors homéopathie. Innover en homéopathie, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire trouver des nouveaux produits nous permettant d'aider les Français à continuer à prendre de l'homéopathie. Par exemple, tu vois, les petits tubes d'arnica. On s'est dit, on va les vendre par trois, ce qui va permettre de réduire le coût. Parce que tubes d'arnica, on en consomme beaucoup quand on est consommateur d'homéopathie. Donc, sur les grands produits d'homéopathie en tube, on a décidé de faire des packs, qu'on appelait les homéopacks, pour réduire le coût et les rendre visibles dans l'officine. Ensuite, on a dit on va innover sur de nouvelles spécialités en homéopathie. Parce que l'homéopathie peut traiter plein de maux pour lesquels l'allopathie ne peut pas toujours répondre. Je te prends l'exemple de la varicelle. Quand ton enfant a la varicelle, on te dit faut désinfecter, ça va passer. Il faut traiter les boutons et pour pas que les patients se grattent. Mais il y a rien pour vraiment empêcher les enfants de se gratter, empêcher la surinfection, etc. Donc nous on a décidé de sortir un produit qui s'appelle Varesol, qu'on va avaler et qui va permettre de faciliter la cicatrisation et d'empêcher la surinfection et d'empêcher que l'enfant se gratte. Donc on a obtenu 7 AMM autorisation de mise sur le marché en 1 an et demi. Avec l'Agence française du médicament. Donc ça, c'était bien pour les patients français et c'était bien aussi pour l'image d'un leader. Donc on a innové en homéopathie. Et dans le même temps, on a innové dans plusieurs domaines. On a innové dans le domaine des compléments alimentaires. Là, en se faisant accompagner avec des partenaires, puisque pour aller vite, il fallait trouver des partenaires. Donc, on a lancé des probiotiques, par exemple, qui s'appellent osmobiotiques. On a lancé des compléments alimentaires dans le sommeil, dans les troubles du sommeil, par exemple, avec des formules originales. Et puis, le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. On est une entreprise de santé publique, il faut aider le gouvernement dans cette période compliquée. En 48 heures, on a décidé de faire des solutions hydroalcooliques. Mmh. On a aidé des établissements français du sang qui en avaient énormément besoin. Donc, notre pharmacien responsable a remis ciel et terre et en une semaine, on a livré les établissements français du sang. Et puis, dans le même temps, je me suis dit, il faut s'entraider dans cette période. Je vais appeler les laboratoires français qui font des tests Covid. Donc, je les ai appelés tous les deux et je leur ai dit, écoutez, nous, on a du personnel, des locaux, des outils de fabrication, de distribution. Est-ce que je peux vous aider? Donc, ils ont été étonnés. Ils ont dit, c'est sympa de nous appeler, on va réfléchir. Donc, il y en a un qui m'a rappelé 2 mois plus tard en disant, votre aide tient toujours parce que nous, on s'en sort pas, on est une start-up, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, banco, vous aide. Donc, on les a aidés à assembler des tests. Dans l'entreprise, on l'avait jamais fait. Mmh. Donc, en un week-end, on a fait appel aux salariés de l'entreprise. On leur a dit tous dans cette salle, dans une partie du laboratoire, on a aménagé pour assembler les tests. Et là, je les ai appelés les réservistes. Et on a dit, allez, il nous faut des réservistes de tous les domaines. Donc, des gens du marketing, de la communication, des autres pans de production de l'entreprise sont venus. On était 40 pour assembler des tests le plus vite possible. Et en 4 mois, on est devenu le leader français de la vente d'autotests en pharmacie. Tu vois, c'est pour te dire qu'on s'est vraiment bougé pour répondre à la fois à ces enjeux de santé publique et puis en même temps, ça a aidé l'entreprise parce que les salariés ont vu qu'on était résilients, qu'on pouvait faire d'autres choses et puis que surtout, on était bien accueillis par les officines. Parce que comme on livre tous les jours les officines et qu'on est en lien quotidien avec les pharmaciens, la qualité du service Boiron, là, pour le coup, elle a été fortement utilisée. Quand on disait, on peut vous livrer, c'était bien vrai. On pouvait leur livrer des tests tout de suite parce qu'ils étaient à côté de chez eux. Donc, on a rendu ce service-là. Et puis, dernier point, il y a 3 ans, l'Agence française du médicament a dit on veut lancer une expérimentation dans le cannabis thérapeutique. Et moi, ça faisait 2-3 ans que je m'intéressais au cannabis parce qu'on est une entreprise mondiale, on est présent dans 50 pays et dans d'autres pays, il y a déjà du cannabis thérapeutique. Donc moi, je connaissais cette plante et je connaissais ces traitements. Et il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1979, il y avait du cannabis qui était possible en France et nous, on l'avait dans notre nomenclature. Donc j'ai ressorti des cartons tous les dossiers qu'on avait sur le cannabis à l'époque et on a dit banco, là aussi, on va aller voir l'Agence du médicament, on va proposer notre candidature et on va dire que nous, on veut être partie prenante de cette étude. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a été partie prenante avec un autre laboratoire, puisqu'on n'avait pas, il y a 3 ans, le droit en tant que laboratoire français. Ça, vous ne savez peut-être pas, mais on n'avait pas, je parle aux auditeurs, ils ne savent pas, mais on n'avait pas le droit de, il n'y avait pas de filière française. Donc, on a dû s'associer avec des laboratoires étrangers pour fournir cette plante dans le cadre de l'expérimentation. Et nous, eh bien, on s'engageait à délivrer aux patients d'expérimentation, en toute sécurité, ce médicament à base de cannabis. Donc, un virage quand même très important pour l'entreprise.
Et qui a permis finalement de redresser significativement l'entreprise et de la remettre sur les rails.
Oui, alors à court terme, ça a permis de retourner effectivement la vapeur et de repartir en positif. Là, je ne te cache pas qu'on est sorti un peu d'une ornière, mais on n'est pas complètement sorti d'affaires. Hein, parce que maintenant, il faut que toutes ces adjacences, elles se développent. Parce qu'on n'a pas encore récupéré tout ce qu'on a perdu du fait de l'arrêt du remboursement en France.
Pour ceux qui nous écoutent, l'homéopathie, l'intérêt de l'homéopathie. Alors, tu vois, en plus, pour moi, qui suis quelqu'un qui ne prend jamais de médicaments, c'est pas ma culture de me dire, tiens, je vais aller rajouter du soin homéopathique, mais pourquoi est-ce que les gens doivent prendre de l'homéopathie? Quel est l'intérêt de l'homéopathie? Est-ce que les médecins prescrivent réellement de l'homéopathie?
Alors, faut savoir qu'il y a 79% des Français qui, au cours de leur vie, ont pris de l'homéopathie. Moi, j'en fais partie, toi, tu n'en fais pas partie, mais
si, j'ai
peut-être,
pris
sans doute,
aussi,
de l'arnica. Ou voilà. Ouais. Mais tu vois, quand tu es petit, des fois, tu as des verrues, tu as des problèmes de peau, tu as des problèmes d'atopie, de rhume à répétition. Donc, l'homéopathie, ça permet de traiter en aigu quand tu as un problème ou en traitement de fond pour éviter les récidives. Pourquoi je me battons pour ça? C'est qu'il y a aussi 7 Français sur 10 qui disent qu'ils aimeraient bien prendre de l'homéopathie à l'avenir. Ça veut dire qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils se disent, y a des traitements qui ne nous conviennent pas forcément et on aimerait bien mieux pouvoir utiliser l'homéopathie. Pour ça, il faut qu'il y ait des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes qui connaissent l'homéopathie. Hein, je crois qu'il y a une sage-femme sur 2 qui est formée à l'homéopathie, 3 000 à 4 000 homéopathes en France. Il y a des médecins généralistes qui connaissent aussi l'homéopathie sans être forcément des homéopathes. Il y a des spécialistes, hein, des gynécologues qui connaissent l'homéopathie. Il y a des oncologues qui sont intéressés à l'homéopathie, non pas pour traiter le cancer, mais pour accompagner les patients cancéreux dans leur traitement de soins de support. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a déposé beaucoup d'études et on est un des rares laboratoires à avoir mené une enquête d'envergure et une étude médico-économique qui montre que l'homéopathie peut accompagner dans les troubles anxieux, dans les douleurs musculo-squelettiques et dans les affections des voies aériennes supérieures. On a fait la plus grande étude de vie réelle qui existe, qui a été reconnue par notamment l'experte mondiale de ce type d'étude et la ministre l'a balayé d'un revers de main. Voilà, c'est fait, c'est comme ça. C'est dommage, encore une fois, pour la France. C'est dommage pour les Français, c'est dommage pour la santé publique. C'est pour ça que nous, on tient à continuer à porter haute les couleurs de l'homéopathie, parce qu'on pense que ça rend service à la population française et à d'autres pays. Au Brésil, ce n'est pas un sujet. Les homéopathes sont des spécialistes et il n'y a aucun sujet de remise en cause de l'homéopathie. En Colombie, c'est pareil. Voilà, il y a d'autres pays dans le monde où il y a beaucoup plus d'ouverture. Et il y a donc des médecins français qui sont médecins, je le rappelle, et qui sont donc professionnels de santé, qui vont te prescrire un antibiotique si tu en as besoin, mais qui vont, dans d'autres cas, te donner un traitement homéopathique. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut travailler main dans la main.
Tu as porté ce combat à la fois pour l'entreprise, mais tu le dis et tu le répètes, c'est un sujet pour les Français. Tu l'as développé, en fait, ça, en arrivant chez Boiron. Est-ce que c'était recherché et finalement un enjeu business? Et on voit bien l'enjeu business pour Boiron. Mais tu disais, tu as parlé de ta passion, tu as parlé du projet. Quand est-ce que tu t'es révélé cette volonté de porter ce combat sur la santé des Français,
la santé,
tout simplement?
En fait, je pense que c'est lié à mon histoire personnelle. Déjà, moi, toute petite, j'ai eu des difficultés de santé. Et c'est vrai qu'à une période de ma vie, j'ai été accompagnée par un homéopathe et ça a été très, très positif pour moi. Donc forcément, Je m'en suis pas souvenue quand j'ai postulé chez Boiron. Maintenant, après, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais c'est vrai que toi-même, tu as été confrontée à ce problème-là. Quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai été enceinte, je me souviens que j'ai eu un problème d'effet secondaire d'un traitement. Et justement, bah, maintenant, ça m'est revenu après. Je me suis dit, bah, si tu avais connu l'homéopathie, tu n'aurais pas eu cet effet secondaire qui aurait pu mal se terminer. Donc, tu vois, déjà, dans mon histoire personnelle, il y avait cet intérêt pour la santé et pour la santé sûre. Et ensuite, quand je suis entrée dans l'entreprise, j'ai très vite demandé à me former. Quand j'étais chez Fournier et chez Urgo, on avait eu des très bonnes formations médicales. J'ai été visiteuse médicale, donc je sais ce que c'est d'autres traitements. Et pour moi, c'était important de bien connaître l'homéopathie parce que moi aussi, je pouvais me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment c'est fabriqué? Est-ce que je suis sûre que ça aide réellement les patients? Donc, je me suis vraiment formée à l'homéopathie, et je me forme encore, hein, comme je te dis. Dès que je peux assister à des conférences, je le fais. Chaque jour qui passe, je me dis, mais c'est incroyable ce médicament, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'intérêt encore en termes de santé publique porté sur ce médicament. Tu vois, je pense que quand tu côtoies des médecins, quand tu côtoies des scientifiques hein, qui travaillent là-dessus, tu te dis, il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, c'est ça qui me motive au quotidien, moi. Puis quand je vois des amis qui m'appellent pour me dire merci de m'avoir fait rencontrer cet homéopathe, ben, c'est ce qui me motive. Moi, je suis quelqu'un qui est là pour aider les autres. Hein, je suis là en tant que leader pour aider mes collaborateurs. Et si je me dis, si je peux aider des patients, bah, tant mieux.
C'est le rôle du dirigeant, ça, pour toi? Comment tu qualifierais le rôle du dirigeant?
Pour moi, le rôle du dirigeant, c'est de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien dans l'entreprise. Pour moi, c'est important que les salariés savent pourquoi ils viennent, ils se lèvent le matin. Pourquoi vous tournez la clé quand alors maintenant, pourquoi vous prenez le guidon? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à vélo hein, maintenant ou dans les transports en commun. Mais voilà, pourquoi on se lève le matin pour aller dans cette entreprise? Moi, clairement, je sais pourquoi je me lève le matin et c'est ce que je communique à mes salariés. Pour moi, c'est le plus important d'avoir la flamme et de porter haute les couleurs de cette flamme de l'entreprise. On veut dire la flamme olympique, nous, on a notre flamme olympique à nous. Et deuxièmement, pour moi, mon rôle, c'est d'être à la disposition de mes collaborateurs. Pour le coup, c'est vraiment Christian Boiron qui m'a appris ça. Je l'en remercierai jamais assez. Il me disait toujours, moi, je suis à ton service. Comment je peux t'aider? Il m'a énormément aidé, Christian Boiron, à être à ce poste, bien sûr, mais aussi à être la dirigeante que je suis. Il m'a beaucoup challengée et il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup rendu service. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire avec mes collaborateurs. Je suis toujours disponible pour eux.
Sur le leadership en tant que tel du dirigeant, on a l'impression, quand on t'écoute, que c'est très clair, très construit, qu'il n'y a pas eu de moment de doute. Est-ce que c'est une de tes qualités? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que ça a évolué dans le temps avec la maturité, avec l'expérience?
Ah, forcément, ça a évolué parce que dans ce chemin que j'ai parcouru et que je vais encore parcourir, j'ai toujours travaillé sur moi. C'est-à-dire, je me suis toujours fait bien accompagner, je me suis toujours remise en question et je vais encore le faire aujourd'hui pour demain. Et forcément, je ne suis pas la personne que j'étais il y a 20 ans. Je me souviens encore quand j'ai démarré chez Publicis, j'étais très impatiente, je voulais que tout aille vite. Et avec le temps, j'ai appris à être un peu plus douce, on va dire, un peu plus gentle, comme diraient les Américains, avec moi déjà, et avec les autres. Parce que forcément, tout ne va pas forcément toujours comme on veut du premier coup sur des roulettes. Et finalement, j'ai appris à me dire, et c'est un de mes slogans, hein, c'est « mauvaise chance, bonne chance ». Si ça va pas toujours du premier coup, il y a forcément une bonne chance. Donc, utilise cette mauvaise chance pour faire mieux. Utilise cette difficulté pour en faire une opportunité. Utilise le fait que cette personne, ça aille pas forcément comme tu le voudrais. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter pour faire les choses différemment? Peut-être c'est toi qui t'y es mal prise avec cette personne. Comment toi, tu peux changer pour faire évoluer les choses positivement? Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on ne changeait pas les autres. Il n'y a que soi qu'on peut changer. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, moi, j'espère me bonifier avec le temps. En tout cas, je suis moins impatiente, je suis plus dans l'acceptation de ce qui arrive. Par contre, quand je dis je suis moins impatiente, c'est parce que je suis plutôt une hyperactive. Je suis toujours orientée résultat de la manière la plus rapide possible. Ça, on ne va pas me changer, et heureusement. J'allais dire, je dis tout souvent à mes salariés, il faut se bouger le chouchou. Je suis plutôt à les pousser dans les retranchements et à réduire les timings, à aller vite. Mais peut-être de manière un peu différente. C'est-à-dire en essayant de toujours mettre les bonnes personnes au bon endroit, de pas mettre les gens en difficulté. Voilà, je pense que je le fais moins en forcing.
Tu es... Finalement engagé sur beaucoup de fronts, beaucoup de sujets, ton rôle de dirigeante, le combat pour les ETI, le combat pour la place des femmes, et je te laisserai nous dire là aussi ta vision sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est le rôle du dirigeant aujourd'hui? Tu vois, moi, si je te fais part d'une réflexion, je pense réellement que finalement, tous ces sujets de contribution au débat public, de contribution dans des... dans diverses instances patronales, dans différents mouvements de discussion avec les pouvoirs publics. C'est à la fois très important pour donner du sens aux collaborateurs, enfin, et leur montrer l'impact qu'on a et la contribution plus globale que l'on a dans la société que simplement faire ce que l'on fait, et que ça met en place un cercle vertueux qui permet au final aussi de servir le business et donc de servir les collaborateurs, et que donc finalement l'entreprise doit être politique dans un sens et engagée. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu l'as fait par combat personnel sur des sujets, ou c'est quand tu es devenu vraiment CEO, je parle du moment où tu es passé de directrice générale déléguée à directrice générale, est-ce que tu avais prévu ça en te disant, moi, en tant que directrice générale, je dois faire ces choses-là? C'est une responsabilité de dirigeant?
Pas du tout. En fait, tout ça s'est fait, entre guillemets, par hasard. Si on prend le sujet des femmes... En fait, à un moment donné, j'ai intégré une nouvelle personne dans mon équipe. Avant, elle était dirigée par un homme, elle a toujours été dirigée par des hommes dans l'entreprise. Et puis, il s'est avéré, quand j'étais directrice générale déléguée, elle est venue rejoindre mon équipe. Et au bout d'un petit moment, elle est venue me voir et elle m'a dit « Écoute, je fais partie d'un réseau de femmes. Est-ce que tu pourrais venir intervenir pour parler de ton type de management au féminin ?» Donc là, je suis interpellée, je lui dis « Ah bon, parce que j'ai management au féminin, je ne savais pas. » Et je lui dis « Bah écoute, c'était avant l'été, j'ai dit « Bah oui, allez, je veux bien. » Puis après l'été, je me suis dit « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas dire, t'as management au féminin ?» Et donc, je réfléchissais, puis j'étais en vacances avec mes enfants, puis mon petit dernier, Valentin, il avait 6 ans, puis il jouait avec ses Playmobil. Et puis il me dit « Maman, j'ai une question, je trouve pas de Playmobil femme. » Je lui dis « Mais si, Valentin va voir dans les caisses de ta sœur de Playmobil, tu as bien trouvé des femmes. » Puis hop, j'entends le bruit des Playmobil dans les caisses, puis il revient, et puis il me montre une figurine, il dit « Bah maman, j'en ai trouvé une !» Juste une, et c'est une fermière. Ah bon, ok. Et donc, ça l'a interpellé. Il me dit, tu te rends compte, j'en ai qu'une, c'est une fermière. Donc, c'est vrai qu'il n'avait pas la femme pompier, la femme chef d'entreprise ou la femme, que sais-je, autre chose. Et donc, j'ai dit, merci Valentin. Parce que je dis, j'ai le début de ma conférence. Je vais commencer ma conférence comme ça. Si même Playmobil ne met pas de femme dans ses Playmobil, c'est quand même un sujet. Alors, il faut dire que les Playmobil, ma fille est née, elle a 27 ans. Donc, ça datait un peu depuis. Je me suis renseignée, il y a beaucoup de femmes Playmobil dans les Playmobil.
Ouais, les
Mais bon, ils ont un peu évolué aussi. Et donc, quand je suis allée à cette conférence, je ne m'étais jamais dit, je vais en faire un sujet pour moi. J'y avais pas pensé. Et à la conférence, ma collaboratrice a introduit la conférence en disant... Valérie est devenue ma chef, j'avais des a priori, et elle me dit, en fait, c'est super d'être managée par Valérie, c'est super d'être managée par une femme, et elle va vous dire comment elle fait. Donc voilà, et donc je me suis lancée, et moi j'ai dit, mais moi je fais rien d'exceptionnel, je vais vous dire comment je le fais humblement, mais je pourrais être un homme. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas manager au féminin, manager au masculin, il y a manager en donnant du sens aux collaborateurs, en aidant les collaborateurs et en suivant ce que j'ai appelé le schéma tête-cœur-corps. Pourquoi on fait les choses, comment on les fait et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et moi, j'ai dit, c'est ce qui m'anime. Chaque fois que je vais voir un collaborateur, je vais l'aider à voir pourquoi il est là, comment il veut s'y prendre et en quoi je peux l'aider concrètement. C'est ça ma recette. Un homme peut le faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ont lu mon livre, parce que dans mon livre « Wonder Women, dites oui à vos pouvoirs », c'est ça, j'explique cette démarche de tête, de cœur et de corps. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis, j'ai fait une conférence. Et après, il y avait 45 femmes. Et les 45 femmes ont parlé de la conférence. Et après, je n'arrêtais pas d'être appelée. Et puis, bon, bah, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq. Puis au bout d'un moment, Christian Boiron me dit « Mais Valérie, arrête de faire des conférences. Tu as besoin d'être à mon côté dans l'entreprise. Tu ne vas pas tout le temps faire des conférences. » Et donc, c'est là que j'ai dit « Bon, bah, toutes les conférences, j'avais tout écrit ce que je voulais dire. » J'ai dit « Bah, je vais le mettre dans un livre. » Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Et finalement, c'est en faisant les conférences que je me suis rendu compte que les femmes avaient besoin d'aide. Mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que moi, je ne m'en étais pas rendu compte dans ma carrière. J'avançais tête baissée, la tête dans le guidon. Et chaque difficulté, pour moi, était une opportunité de me remettre en question, de faire différemment, etc. Donc, je n'avais pas vu. Et puis, avec Christian Boiron, je n'avais pas eu ce plafond de verre. Parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a eu beaucoup de femmes dans son équipe. Donc, il n'y avait pas ce sujet dans l'entreprise. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet en dehors de l'entreprise. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est décanté. Et sur le sujet des ETI, qui est un deuxième sujet sur lequel je me suis impliquée il y a 2-3 ans, c'est pareil. J'ai vu le sujet de la problématique des ETI quand j'ai moi-même été confrontée au problème avec la ministre de la Santé. J'ai tapé aux différentes portes et je n'ai pas eu d'aide. Je me suis dit, mais c'est dramatique. On est une ETI et on n'est pas aidé. Et quand le club ETI Île-de-France est venu nous rencontrer à Lyon, j'ai dit, mais je comprends pourquoi vous êtes créé. Je comprends pourquoi vous voulez et vous entraider et aider les ETI. Parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Et moi-même, j'ai été confrontée à ça. Et comme je suis quelqu'un qui aime aider les autres, j'ai dit, bah, attends, moi, OK, je veux m'impliquer là-dedans parce que ce que j'ai vécu, eh bien, j'espère bien que d'autres entreprises ne vont pas le vivre. Et si je peux aider, eh bien, je vais aider. Et c'est comme ça que j'ai proposé de co-animer ce club des ETI en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, tu vois, c'était pas la volonté d'être quelque chose ou quelqu'un ou d'agir. C'est finalement, par effet de circonstance, c'était une conséquence de ce que j'ai vécu. Oui,
une conséquence des expériences qui t'a amené sur ces sujets. Mais si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'entreprise est politique et que tous les dirigeants d'entreprise doivent s'engager en fonction de leurs aspérités, de leur sujet, de leur business?
Je pense que quand tu es CEO, déjà, c'est que tu atteins un certain niveau de pouvoir. Et pas le pouvoir de dire, oh là là, je suis contente, j'ai des barrettes et tout. Non, le pouvoir de faire des choses, le pouvoir d'influencer les choses. Donc, on a ce pouvoir d'influencer nos entreprises. Et donc, je pense qu'il faut qu'on l'utilise, cette capacité à utiliser ce pouvoir d'influence pour faire bouger les lignes d'autres choses. Et si on ne le fait pas en tant que dirigeant, bah, qui va le faire? Alors oui, il y a les syndicats, oui, il y a même les salariés qui peuvent parfois aider avec des associations. Mais je pense qu'en tant que dirigeant, on a, en fonction de nos caractères, en fonction de nos compétences, parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences en tant que dirigeant, on peut amener notre pierre à l'édifice et aller, j'allais dire, un peu secouer les lignes et interpeller nos dirigeants politiques pour faire bouger les choses. Pour les clubs ETI, on doit travailler main dans la main avec Bercy ou avec notre président. Il y a le mouvement Étincelle en ce moment, donc je trouve que c'est quelque chose de positif pour les entreprises. Il faut savoir que les ETI allemandes, déjà, il y en a deux fois plus et elles sont énormément aidées par le gouvernement allemand. Moi, je souhaite qu'on prenne cet exemple et que nos ETI françaises soient accompagnées aussi.
Mais moi, j'avais fait cette démarche-là en estimant qu'on était une ETI française et que donc on avait les mêmes combats. Moi, je suis très porté sur les sujets de croissance des PME. Et là où je m'implique le plus dans le métier, c'est sur ce sujet de croissance des PME pour qu'on ait plus d'ETI. Et on pose souvent la question, mais pourquoi faire de la croissance? Même mes propres collaborateurs, tu vois, nous, on a un plan stratégique qui était de doubler de taille dans les 5 ans. Il y a un débat quand même de société aujourd'hui avec la durabilité sur la croissance des entreprises. Pourquoi faire de la croissance? Est-ce que c'est encore raisonnable d'avoir des objectifs de croissance? Moi, j'ai cette conviction que la croissance, elle est indispensable. Une entreprise qui fait pas de croissance, c'est une entreprise qui est malade et qu'on a besoin d'avoir des entreprises qui soient fortes, hein, qui rayonnent à l'international et que donc on a besoin d'avoir plus d'ETI en France. Quelle lecture tu portes sur ces débats aujourd'hui, toi, en tant que dirigeante?
Alors, c'est toujours pareil. Quel est le sens de cette croissance? C'est ça, la clé. Pourquoi faire de la croissance? En fait, je vais te donner l'exemple des ETI Auvergne-Rhône-Alpes que je connais bien. Si je te dis qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 500 ETI, qu'elles embauchent 70 000 collaborateurs. Elle pèse 15 milliards d'euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes. C'est les Français, les Françaises. C'est mes collaborateurs. Tu crois que ça m'a fait plaisir de licencier 512 personnes ? Bon, bah demain, si je suis en croissance, je vais rembaucher des personnes. Ça veut dire combien de foyers ? Parce que j'ai licencié 512, mais il y en a combien qui ont été touchés ? Sans doute 2000, parce que c'est des foyers avec des enfants. Donc, demain, aider nos ETI, bah, c'est aider les personnes à avoir des emplois. C'est aider d'autres entreprises, parce que forcément, si je suis en croissance, eh bien, je vais plus utiliser mes fournisseurs, je vais prendre plus de plantes, je vais prendre plus de matières, etc. Mais du coup, je vais aussi aider d'autres entreprises.
J'aurai de l'impact.
Donc, voilà. Et après, j'ai de l'énergie, parce que la croissance, c'est de l'énergie financière. Alors, la crise de l'énergie, c'est une même crise. Si tu n'as pas d'argent, tu as une crise de l'énergie. Hein, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu as une crise.
Tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de croissance.
Donc, si tu as de l'énergie financière, eh ben, tu vas l'investir. Tu vas l'investir ben, pour tes collaborateurs. Nous, on l'investit dans l'entreprise aussi. On va investir pour aider, accompagner nos salariés parce qu'on est une entreprise avec 32 accords. Hein. Bon, ben, faut les financer, les accords. Le dernier, là, il est sur la solidarité. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, moi, je vois positivement la croissance parce qu'on en fait quelque chose de positif pour nos salariés. On en fait quelque chose de positif pour aider l'environnement. Nous, on a décidé de mettre 11 000 mètres carrés d'ombrières et pour donc avoir une électricité que l'on va fabriquer nous-mêmes. Bon, ben ça, il faut bien investir. Ben, si on n'a pas d'énergie pour investir, on n'aura pas l'énergie pour faire tourner nos machines. Tu vois ? Donc, cette énergie-là, elle doit être utilisée à bon escient. Et nous, on n'est pas dans une entreprise où voilà, on va distribuer des dividendes pour des dividendes. On va avoir une saine répartition pour que les collaborateurs et l'entreprise puissent continuer à se développer et à faire mieux les choses. Et franchement, je pense que mes collègues sont dans la même trempe, j'allais dire. Et je vois tous les patrons d'ETI comme ils se battent pour leurs salariés, pour les emplois, pour les formations aussi. Je vais donner un autre exemple. Là, le Premier ministre, Monsieur Attal, a décidé de faire les stages pour les secondes. Ben, c'est pas évident. Moi, j'en vois des parents qui me disent comment on va faire pour leur trouver un stage. Et ben là encore. C'est bien les entreprises qui vont ouvrir leurs portes. Avec ma DRH, on a fait tout un système pour ouvrir au maximum nos portes pour accueillir les secondes. Et donc, si on n'est pas en croissance, si on n'a pas la santé, si on n'est pas en santé dans nos entreprises, comment on va accueillir ? C'est tout bête. Mais voilà, pour moi, une entreprise qui va bien, une entreprise qui se développe bien, elle peut faire plein de choses. Et là, en l'occurrence, eh bien, on peut répondre présent en région Auvergne-Rhône-Alpes avec nos ETI pour accueillir nos petits lycéens. Et c'est important pour eux.
Je parlais de l'ensemble de tes combats. Comment tu gères tout ça, en fait ? Comment est-ce que tu arrives à gérer à la fois l'ensemble de tes combats et tes implications dans l'ensemble de ces mouvements ? Et finalement, ta vie privée dans tout ça ? À quoi ressemble ton agenda ? Et est-ce que tu arrives à te garder des moments de décompression ?
Alors, j'ai appris justement à faire ça. Et ça j'avoue que ça n'a pas toujours été simple hein, dans ma carrière de gérer tout ça. On dit souvent, en tant que dirigeant, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Moi, j'ai un codir que j'ai choisi et j'ai plaisir à travailler avec mes équipes. Et ça, déjà, ça m'aide beaucoup. Quand tu sais que tu peux t'appuyer sur tes collaborateurs, c'est essentiel. À titre privé, c'est pareil. Dans ma carrière, et je l'ai dit toujours, surtout à des femmes, il faut être accompagnée. Moi, j'ai eu des super employés de maison, des super nounous, des super parents aussi qui m'ont aidée. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Donc, il ne faut pas hésiter à demander, dire « Papa, maman, nounou, est-ce que vous pouvez m'aider ?» etc. Et faire en sorte que tes enfants soient bien alors que tu es obligé d'aller faire coulisses de CEO et en même temps faire en sorte que tes enfants soient bien. Voilà, donc je pense qu'il faut déjà accepter de déléguer dans l'entreprise, accepter de déléguer en dehors de l'entreprise, donc pour sa vie personnelle, pas forcément vouloir tout faire, et également s'occuper de soi. Manager les autres, c'est déjà se manager soi et avoir un équilibre de vie qui vous correspond. Alors, moi, je peux te donner mon exemple. Moi, ce qui m'équilibre, parce que je suis une hyperactive. Donc, c'est sûr que mes enfants me disent toujours, on parle des enfants hyperactifs. À un moment donné, il faudrait parler des parents hyperactifs. Donc, moi, j'en fais partie, des parents hyperactifs. Mais du coup, j'essaie de canaliser cette énergie pour pas épuiser tout le monde. Et du coup, je prends du temps pour moi. Tous les jours, j'ai un rituel où je vais prendre du temps pour faire un sport, même si c'est une demi-heure de marche, un peu de pilates. Voilà, donc tous les jours, je vais avoir ce temps pour moi qui me permet d'être bien dans mon corps. Parce qu'être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne souvent, de bien s'occuper de soi. Parce qu'après, on est disponible aux autres. Puis j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement sportif et qui est un peu mon coach. Donc, je fais beaucoup de sport en famille. Et la montagne, la nature est très ressourçante pour moi. Et je passe beaucoup de temps à faire du vélo, à faire du ski. Quand tu as fait 2 heures de VTT ou 2 heures de ski de fond, bah c'est sûr qu'après, t'es déjà un peu calmé. et tu vois les choses différemment. Parce que quand je fais du sport, bah forcément, tu t'oxygènes. Et là, c'est là où j'ai plein d'idées. Tu vois, je vais nager 1 heure, par exemple. Et ben, pendant l'heure de natation, je peux te dire que là, j'ai toutes les idées qui se mettent en place et je trouve plein de solutions dans ces moments-là. C'est pas forcément dans l'entreprise que tu trouves les solutions.
Je partage une histoire personnelle, mais je fais énormément de sport, du triathlon, de l'alpinisme, et donc j'essaie de m'entraîner entre 10 et 12 heures par semaine. J'ai souvent des questions de comment t'arrives à faire autant de sport. Et souvent, ma réponse, c'est « mais vous n'imaginez pas à quel point je travaille en courant ». Justement parce que sur ces sports-là, t'es toujours en train de réfléchir, de phosphorer. Et donc, typiquement, si j'ai une problématique que j'arrive pas à gérer, où j'ai pas une réponse, où je trouve pas la solution, je pars courir et je reviens avec une solution. Ça a cet effet-là, en fait.
Ouais.
Parfois, on passe un peu pour effectivement des hyperactifs à faire ça, en se disant « mais pourquoi se faire ça ?» Mais effectivement, ça permet de te sentir bien à la fois dans ton corps, dans ta tête, et puis finalement de trouver des solutions, et donc malgré tout, d'être toujours là. Mais par contre, tu déconnectes pas.
Alors, oui et non, parce que tu as raison, quand on est CEO, j'ai l'impression qu'on est CEO jour et nuit, quoi. Même avec sa famille. Alors nous, des fois, les enfants, ils nous demandent de débrancher. En plus, mon mari travaille avec moi, donc c'est pas toujours évident parce qu'on va pouvoir parler des problématiques. Alors, c'est vrai que des fois, les enfants, ils entendent des choses et ils disent, oh là là, arrêtez un peu avec le travail. Et en même temps, plus les enfants grandissent, plus ils participent. Et c'est vrai qu'il y a, pas souvent de moments de vraie déconnexion, sauf justement quand moi je suis à la montagne, en ski de randonnée, dans des sports qui nécessitent de faire attention et du coup de se concentrer finalement sur autre chose que des problématiques.
J'ai eu Loïc Soubéran, le fondateur de Swile, sur le podcast, et à la question équilibre vie pro, vie perso, il a répondu quelque chose que je trouvais intéressant, qui est de dire non, je n'oppose plus vie pro, vie perso. Parce que de toute manière, ben voilà, je suis CEO et je le suis tout le temps. Maintenant, j'oppose vie pro, vie privée. Effectivement, je me conserve une vie privée, mes enfants, mes amis. Mais malgré tout, je suis CEO, donc je suis CEO toute la journée, également le soir et le week-end.
Tout à fait.
Est-ce que tu as des regrets sur certaines choses? Déjà, est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a des choses où tu te dis j'ai mal fait les choses et aujourd'hui, avec l'expérience acquise, je le ferai différemment? Est-ce que tu as des regrets de
dirigeant? J'ai forcément fait des erreurs. Et heureusement, j'ai fait des erreurs. En fait, c'est bien de faire des erreurs. Parce que quand on fait des erreurs, on progresse. Donc, je ne vais pas regretter certaines erreurs. Et j'en fais encore aujourd'hui. Hein, ou des maladresses, etc. Et oui, j'en tire des choses. J'en tire des fruits. Et j'en ai tiré un slogan que j'utilise tous les jours. C'est respirer, réfléchir, réagir uniquement dans cet ordre. En fait, quand j'ai fait des erreurs, c'est que souvent j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas pris le temps de mesurer les conséquences de mots, d'actes, de situations. Et donc, depuis un moment, je me dis, ne confonds pas vitesse et précipitation. Je pense, si je prends la vue d'hélicoptère, c'est ça, c'est de dire... Le fait de vouloir aller vite, d'être un peu pressé des fois, ben on peut faire des erreurs. Et ce que je retiens de ça, c'est de prendre le temps de réfléchir intelligemment. Et pour réfléchir intelligemment, il faut respirer. C'est comme quand tu fais du sport, si tu fais ton triathlon et que tu respires pas, tu vas pas y arriver. Et ben moi je pense que diriger une entreprise, c'est comme faire un marathon ou faire un triathlon, il faut prendre le temps de respirer. Parce que sinon tu vas peut-être rater une marche quand tu vas courir, rater quelque chose et ça sera dommage.
Comment est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui et est-ce que tu as encore besoin de progresser ?
Alors, toujours. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'on a toujours besoin de progresser. Donc oui, je suis accompagnée. Oui, je me fais accompagner par une coach canadienne qui est super, qui a plein de techniques aussi pour, tu vois, aller bien, démêler des situations parce que comme je l'ai dit, manager l'entreprise, ça commence par se manager soi. Donc oui, moi, je me fais accompagner. Et puis, je m'observe aussi, j'allais dire. J'ai appris ça à faire un peu le soir, à me dire, bon, alors, qu'est-ce que tu as fait, lequel c'est super, tu continues à faire comme ça. Là, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire différemment ? Je prends le temps, oui, de faire des arrêts comme ça sur image et de réfléchir à ce que je peux faire différemment.
Il y a des dirigeants qui t'inspirent ?
Alors forcément, j'aime bien écouter des dirigeants ou écouter des podcasts avec d'autres dirigeants parce que ça m'inspire sur plein de plans, sur la résilience, comment ils font dans des périodes difficiles, parce que moi j'en ai vécu et je peux en vivre d'autres. Pendant la période Covid, j'avais été vraiment inspirée par les dirigeants qui s'étaient associés pour faire les respirateurs. Je sais pas si tu te souviens de ça, on manquait de respirateurs. Ouais. Il y avait deux sociétés, c'est Airbus et je ne sais plus lequel autre entreprise, qui s'étaient associés. Donc, typiquement, ça m'avait inspiré. Hein, donc, oui, je m'inspire des autres. Dans ma région, par exemple, j'écoute souvent le patron de Michelin qui m'inspire. Puis des autres dirigeants, on se rencontre souvent entre dirigeants avec le club des ETI et j'écoute à 2000% ce qu'ils disent sur leur façon de faire parce qu'il y a toujours quelque chose qui va m'inspirer. Par exemple, j'ai fait un petit déjeuner avec le club la semaine dernière et je leur ai dit, vous allez, si vous voulez bien, partager un succès ou une difficulté du moment ou un besoin du moment. Et rien que ce tour de table avec le succès de certains, les problématiques d'autres, c'était inspirant pour moi et c'était inspirant pour les autres. Donc, je trouve que le partage entre dirigeants est très nourrissant.
Tu n'as pas eu le sentiment, quand tu as pris ces fonctions, justement sur la question de la solitude, que ton rapport aux autres changeait ? Qu'à partir du moment où tu étais dirigeant d'une entreprise, tu as énormément d'amis, de nouveaux amis. Souvent très vite pour te pitcher quelque chose, te vendre quelque chose. Quel est l'endroit où tu trouves un partage et où tu peux réellement te livrer sur tes difficultés, tes doutes, mais de façon entre guillemets bienveillante, sans jugement. T'as pas eu le sentiment que c'était difficile de trouver des lieux comme ça ?
Pas vraiment, non, en fait, alors ce que tu décris sur tu as plus d'amis, certainement, mais en fait, ça, je m'en suis pas ni préoccupée, ni questionnée, parce que aussi, je pense, j'étais dans une situation très difficile, avec plusieurs crises à gérer en même temps, donc si tu veux, j'avais pas non plus trop le temps de me poser ce genre de questions. Peut-être plus maintenant, où on est un peu sorti d'affaires, où j'ai d'autres types de problématiques, mais elles sont moins difficiles qu'il y a quelques années. Après, moi, comme je te l'ai dit, je travaille avec mon mari, donc déjà, je ne sais pas si c'est une chance, parce que des fois, c'est difficile, justement, de partager tout ça, mais ça me permet d'avoir, lui, ses problématiques, et puis il voit parfois les miennes, donc de pouvoir en parler, et également d'avoir d'autres amis chefs d'entreprise. Ça aide aussi pouvoir partager ces difficultés. Puis moi, j'ai des enfants qui ont toujours été très impliqués dans ma vie de tous les jours, hein, parce que forcément, j'ai eu très vite des postes à responsabilité.
Et tu parles de ça avec eux ?
Alors oui, ouais. Ça m'arrive. Ou eux m'en parlent. Eux m'en parlent parce que des fois, c'est eux qui voient certaines choses dans la presse. Et j'ai des enfants qui sont connectés. J'ai deux enfants qui sont kinésithérapeutes, donc déjà qui sont dans des professions de santé. Et donc, forcément, ils sont très à l'écoute de tout ce qui a trait à la santé et de tout ce qui a trait. C'est des entrepreneurs aussi dans l'âme, le petit dernier aussi. Et donc, on partage des choses en famille.
Merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ton parcours et ta vision. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour les laboratoires Boiron et pour l'ensemble des causes que tu portes. Merci encore et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Valérie.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BDO.